Bien, bonsoir, donc je suis Thierry Thomas, je suis directeur des thermes d'Alvar et je viens vous parler de la cohérence cardiaque qu'on utilise nous dans le protocole fibromyalgie, qui a été amenée en France par David Servan-Schreiber dans son livre Guérir en 1983. Il l'a fait connaître, mais elle existe depuis assez longtemps. Mais avant d'arriver vraiment à la cohérence cardiaque, il faut passer par tout un parcours initiatique qui commence par le stress. Parce que la cohérence cardiaque est un magnifique outil pour apprendre, non pas à gérer, mais essayer à accepter et essayer de dominer ce stress, qui va lui-même, pour vous, être quelque chose d'assez important, parce que c'est quand même une donnée au niveau de la fibromyalgie qui est très très importante. Hein, en sachant que la douleur étant par essence un stress, comme vous êtes en souffrance relativement sur une longue période, vous avez vous sécrétez énormément d'adrénaline. Donc la cohérence cardiaque va pouvoir vous aider simplement, c'est tout à fait gratuit, ça se pratique chez soi, il n'y a aucun problème. Donc je vais vous parler de tout ça, et on va passer d'abord par un petit parcours autour du stress, que vous connaissez peut-être déjà, mais je pense que peut-être pas tout le monde. Il faut que ça marche. Hop. Normalement ça marchait avant. Hein. C'est bon. De loin on ne m'entend pas bien. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. 1, 2, 3. Vous restez pour moi, c'est gentil.
Marie-Rose.
Ah oui, moi, j'ai pas une voix
est-ce
forte.
Est-ce que quand je parle, moi, on m'entend?
Oui, il y a peut-être du micro. Il faudrait peut-être changer.
Même sans micro, bon, alors.
Changer le micro.
Ouais, non, c'est pas ce que c'est.
Non, mais c'est
peut-être. 1, 2, je ne sais pas si on m'entend mieux là ou pas. 1, 2. Là-bas, au fond, vous m'entendez? Faut que je monte ? Oh là !
Non, c'est
non, je pense pas. 1, 2, 3. C'est moi qui ai une voix qui peut-être porte pas. Hein. Voilà. Alors, hop, on va démarrer. Voilà, hop, comme ça, je serai tranquille. Voilà. Alors, tout d'abord, bon, qu'est-ce qui se passe quand on a un stress ? Il y a une perturbation de son système nerveux autonome. Donc c'est ça qu'il faut déjà intégrer. Qu'est-ce que son système nerveux autonome ? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est tout ce qui se passe dans votre organisme sans que vous en ayez conscience. Hein, il y a beaucoup de choses qui se passent et vous ne savez pas du tout que ça se passe. Donc le stress va venir perturber ça. Et c'est l'impact majeur du stress. Voilà. Alors la cohérence cardiaque va venir vous aider, c'est une technique simple ce que je disais, pour venir vous aider à travailler sur un rééquilibrage du système nerveux autonome. Voilà. Alors le stress, qui a amené ce mot stress ? C'est monsieur Hans Seyl, donc en 1956, a formalisé le mot stress. Voilà. Donc le stress, qu'est-ce que c'est ? Alors ce n'est pas une maladie, ça c'est important. C'est pas une maladie, c'est un syndrome général d'adaptation. Donc syndrome, ça veut dire que c'est un ensemble de signes et de symptômes corporels. Général, c'est-à-dire que c'est tout le corps qui est affecté par le stress. Non spécifique, parce que les réactions sont similaires, quel que soit le stresseur, hein, que ce soit la douleur, que ce soit votre patron, que ce soit votre compagnon, que ce soit votre femme. Le stresseur, il va toucher tout le monde de la même façon, quel que soit le stress. Et c'est un syndrome d'adaptation parce que le stress est utile, c'est pour ça qu'on ne peut pas le rejeter. Le stress va aider votre corps à s'adapter à une situation qu'il n'a pas l'habitude de gérer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter le stress. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez un stress, vous voyez, vous avez un petit pic là, si j'ai mon petit truc qui marche là, aussi. C'est beau la technique, mais il faut que ça marche. Voilà. Vous avez ici, à ce niveau-là, un stress. Qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, votre organisme va se mettre en adaptation. Alors pour s'adapter, c'est un petit peu... On est les héritiers des hommes préhistoriques. Hein. Donc on s'adapte un peu comme eux. C'est-à-dire qu'on se prépare soit au combat, soit à la fuite. Et ça, vous n'y pouvez rien. Ça se fait contre vous, hein, malgré vous, on va dire. Donc automatiquement, si vous avez un bus qui klaxonne sur le trottoir à côté de quand vous passez, c'est un petit peu comme lorsque l'homme préhistorique se trouvait face à un mammouth. Sauf que c'est plus la même chose. Quoi. À l'époque, soit il se mettait à courir pour éviter, soit il allait combattre. En fait, il allait se mettre en situation, en stratégie de combat ou de fuite ou d'évitement. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi se cacher pour éviter. Mais donc tout le corps se met en marche pour ça. Donc entre le bus et le mammouth, ça a changé. Vous n'allez pas, vous, prendre une massue et aller taper sur le bus. Donc automatiquement, tous ces stress vont développer un pic d'adrénaline que vous n'allez pas éliminer par un combat ou par une fuite. Donc ça, déjà, c'est un premier élément qui va venir perturber le système nerveux autonome. Deuxième chose, après, si le stress se perpétue ou si le stress perdure, vous allez être obligé, il n'y aura plus d'adrénaline. Vous aurez tout épuisé. Donc on passe dans une seconde sécrétion, c'est le cortisol. Donc le cortisol intervient dans la deuxième phase, qu'on appelle la phase de résistance. Donc vous allez résister, donc on sécrète du cortisol, et c'est les glandes surrénales. Mais là aussi, toujours pareil, après, si vous continuez à être stressé, ou s'il y a toujours des stress qui se perpétuent tout le long de la journée, à la fin, vous arrivez à plus avoir de cortisol non plus, et c'est l'épuisement, c'est le burn-out. Alors, on va voir plus en détail les trois phases que je viens de. Donc la phase d'alarme, hein, un stress. La phase de résistance, pendant un petit moment, on résiste, on s'adapte, et donc c'est les surrénales qui travaillent. Et après, si on n'arrive pas à gérer le problème, on s'épuise. Voilà un peu comment se passe le stress. Alors quelles sont les réponses du stress au niveau donc du corps? C'est au niveau des muscles qui se tendent, la peau, il y a la transpiration, le cœur va commencer à battre très fort, au niveau de la tête, on peut avoir des maux de crâne, la respiration s'accélère, et puis, bon, forcément, à force, on peut arriver à avoir des maladies. Au niveau des émotions, anxiété, irritabilité, pleurs, concentration et sommeil, c'est l'adaptation au stress, et au comportement, c'est toutes les addictions, que ce soit troubles de l'appétit, du tabac, certaines habitudes et de l'alcool. Au niveau des conséquences, le stress vous entraîne des conséquences qui sont pas très drôles, hein, donc hypertension, tous les problèmes cardiaques, les ulcères, les colites, la libido, l'arthrose. Au niveau des émotions, c'est la dépression, le suicide, le burn-out, la colère. Et au niveau des comportements, on l'a vu, addiction, accident, alimentation. Voilà les conséquences du stress. Alors le stress, si on essaie de se résumer, c'est une réponse corporelle à un changement potentiellement dangereux demandant une adaptation de sécurisation. Hein, c'est le mammouth, c'est le bus, c'est face à un stress, il faut absolument qu'on réagisse et que notre corps s'adapte. C'est ce qui nous a permis d'être encore ici en ce moment. Sinon, on aurait été comme les dinosaures, on n'existerait plus. Donc le stress, moi je dis toujours, je le répète, c'est pas forcément mauvais. Voilà, ce qui est très important, c'est ça. On arrive maintenant, pour moi, dans ce qui est très crucial dans le stress. Une fois qu'on a compris ça, je crois qu'on relativise beaucoup les choses au niveau du stress. Voilà. Est-ce qu'il y a un stress ici, le pauvre petit monsieur avec sa bouée, face à ce qui arrive en face? Là, à mon avis, il est un peu stressé, le monsieur. En revanche, lui, est-ce qu'il est stressé? Non. Il attend cette vague. C'est comme dans le film, il attend la vague. Donc, entre les deux, forcément, il y a une situation qui va stresser une personne, mais qui ne va pas stresser la deuxième. Voilà, donc ça c'est hyper important, parce que la formule du stress, c'est le stress, c'est si la demande est supérieure aux ressources. Alors vous imaginez votre compte en banque, et vous avez des recettes et des dépenses. Et bien le stress deviendra, entre guillemets, dangereux, voire pathologique, à partir du moment où vous allez avoir plus de dépenses que de recettes. Le tout, des fois, ce n'est pas, quand on parle de stress, c'est pas forcément de limiter les dépenses, parce que de toute façon, des dépenses, le stress, vous en avez, c'est normal, c'est la vie. Donc c'est plutôt de gagner plus, d'augmenter les ressources. Donc il faut travailler sur ces ressources pour en avoir plus face au stress. Et c'est l'objectif de la cohérence cardiaque. Voilà. Donc, là, on repart de ce que je disais, c'est l'adaptation, la fuite, le combat, stimulation des systèmes de mobilisation d'énergie, inhibition des autres systèmes. Parce que aussi, le stress, il a quand même un aspect quand même un petit peu négatif, c'est que comme on est dans une réaction au niveau de fuite au combat, l'homme préhistorique, son organisme, il s'adaptait à la fuite au combat, donc il a enlevé tout ce qui ne servait à rien. Tout ce qui lui servait à rien, la digestion par exemple, pas besoin de digérer quand on est stressé. Donc les gens qui sont stressés ont des problèmes digestifs. On avait par exemple aussi pas besoin de barrière immunitaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On diminue l'immunoglobuline A, donc on a moins de barrière urinaire. Quand on est stressé, on attrape un peu tout ce qui se présente à nous. En revanche, il y a augmentation de tous nos sens, c'est-à-dire qu'on entend mieux, on voit mieux, on respire plus vite, on a plus les muscles qui sont tendus. Ce qui fait que quand on est stressé, qu'est-ce qui peut se passer ? Acouphène, à force de faire trop travailler son ouïe, parce que ça on n'y peut rien, ça se fait automatiquement. Eh ben, on peut développer des acouphènes, on a trop fait travailler ça. Pareil pour la vue, pareil pour plein de choses. Donc ça c'est hyper important de l'avoir en tête. Voilà, bon, ce que je dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Dilatation des pupilles, accélération du cœur, augmentation de la pression artérielle, les vaisseaux, constriction des vaisseaux, augmentation de la transpiration, libération de sucre par le foie. Accélération de la séquence, hein, augmentation du diamètre des bronches, dilatation de la vessie, sécrétion de rénine par les reins, ralentissement de la digestion, sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Donc vous avez des troubles de la mémoire, troubles de la concentration, perturbation du jugement, pensée pessimiste, rumination, soucis persistants. Voilà, troubles de l'humeur, irritabilité, agitation, bon. Sentiment de malheur. C'est toutes des choses qu'on retrouve dans les syndromes de la fibromyalgie, tout ça. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette digression sur le stress, parce qu'elle est importante. De toute façon, elle touche tout le monde, et elle est importante pour bien comprendre aussi la cohérence cardiaque. Voilà, les effets physiques, les douleurs chroniques, bien entendu, diarrhée, constipation, troubles urinaires, indigestion, nausées, vertiges. Ouais, vous avez, ouais, après, là, on a toute la série, hein. Douleurs thoraciques, tachycardie, baisse de la libido, tendance aux infections, perturbations des cycles menstruels, tout ça, c'est le stress. Donc, voilà. Troubles du sommeil, je pense que ça, quand on vous parle de troubles de sommeil, vous connaissez. Isolement des autres, c'est pas trop, peut-être pas forcément votre problème. Procrastination, refus de responsabilité, c'est vrai qu'on n'a pas envie de terminer les choses, voilà. On remet tout à demain. Des addictions, des tics et des comportements nerveux. Voilà, alors le système d'adaptation, c'est ce dont je vous parlais. Au début, maintenant, on va le voir. Donc, c'est système d'adaptation automatique, système nerveux autonome. Donc, il se divise en deux branches, qui est le système sympathique et le système parasympathique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, donc système sympathique, système parasympathique. Le sympathique, c'est l'accélérateur. C'est celui qui vous permet de survivre. C'est celui qui active, qui s'active quand il y a du stress. Globalement, le système sympathique est toujours en action. Et il faut qu'il ait le système parasympathique, derrière, qui vienne le ralentir. Alors, comme vous le voyez, là c'est une petite anecdote, vous voyez que le système parasympathique, il a deux types de racines différentes. On le retrouve au niveau des cervicales, toutes les sorties, et au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, quand on fait de la méditation, pourquoi, quand on fait de la relaxation, il faut se tenir droit ? Ah, il l'avait trouvé avant nous, parce qu'effectivement, en se tenant droit, c'est-à-dire en prenant des postures droites, en baissant un petit peu la tête, qu'est-ce qu'on fait ? On libère ces zones-là. On libère le haut et on libère le bas. Et donc, automatiquement, on va faciliter le travail du système parasympathique. Alors c'est toutes des choses maintenant qu'on arrive à analyser par rapport à ce qui se faisait, ce qui se pratiquait dans des techniques ancestrales. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Alors on va voir la comparaison. Voilà, vous avez aussi tous les systèmes, donc le système sympathique ou parasympathique, ils travaillent sur l'ensemble des organes. Voilà, alors deuxième, on rentre maintenant, ça y est, dans la cohérence cardiaque. Mais avant de comprendre la cohérence... Pour la cohérence cardiaque, j'en ai pour 3 minutes, c'est très vite expliqué. Mais pour comprendre la cohérence cardiaque, il faut comprendre la variabilité du rythme cardiaque. La variabilité du rythme cardiaque, il existe aujourd'hui plus de 14 000 études publiées chez PubMed, donc toutes les études médicales, sur l'importance de la variabilité du rythme cardiaque. La variabilité du rythme cardiaque, c'est une donnée physiologique aujourd'hui primordiale. Elle permet de faire un bilan immédiat de votre état de santé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, comme vous le voyez, entre deux battements de cœur, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout le même temps. Et ça, jamais. Ça n'arrive jamais. Si vous avez le même temps entre chaque battement de cœur, ça veut dire que vous allez mourir. Plus on s'approche de la mort, plus les battements deviennent réguliers. Voilà, hein, donc ça fait peur ça, mais bon, rassurez-vous, vous n'avez pas des battements de cœur qui se... Voilà, ouais, quand, voilà, avec l'arythmie cardiaque, c'est super. Voilà, ouais, vous allez vivre vieille. Voilà. Alors la variabilité cardiaque, c'est une fluctuation physiologique de la fréquence cardiaque autour d'une moyenne. Alors c'est très compliqué. Autour de la moyenne donnée par tout instrument de mesure de rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que votre médecin, quand il va vous prendre le pouls, il va dire à votre pouls, il est à 70. C'est très bien. Mais ça, c'est la moyenne. La variabilité cardiaque, c'est ce qui va se passer au-dessus et ce qui va se passer au-dessous. C'est-à-dire que vous imaginez, votre cœur, il va battre comme ça, il va y avoir des ondes, et il y a un haut et un bas. On mesure la variabilité cardiaque, c'est la distance entre le haut et le bas. Plus la variabilité est grande, mieux c'est. Voilà. Et la variabilité de rythme cardiaque aussi, c'est un des témoins de, justement, l'équilibre, le rééquilibrage du système nerveux autonome. Voilà, donc le système nerveux sympathique accélère, c'est l'adrénaline, noradrénaline, cortisol, donc le stress. Le système nerveux parasympathique, c'est le ralentissement, acétylcholine et DHEA. Donc là, c'est plutôt le repos. L'amplitude de la variabilité cardiaque, c'est une évaluation de l'adaptabilité de la personne. Et plus elle est grande, meilleure est la santé. Alors, pour avoir fait des tests au niveau des patients fibromyalgiques, puisqu'on le fait, nous, systématiquement, chez nous, c'est vrai que vous avez une amplitude qui est relativement petite. Donc vous avez des difficultés d'adaptation. Et la douleur, bien entendu, est là pour aggraver la chose. Voilà. Là, on vous branche sur un électrocardiogramme. Voilà ce que vous avez. Vous avez trois possibilités. Vous avez la variabilité cardiaque, donc la mesure brute. C'est le chaos, parce que ça monte, ça descend, et ça c'est normal. Voilà, la moyenne de fréquence cardiaque, par exemple, là, est à 64. Et comme il faut éliminer les pics quand on calcule la variabilité du rythme cardiaque, on a une amplitude de 30. Donc il y a des logiciels qui calculent ça, on ne calcule pas à la main, c'est des logiciels qui calculent ça. Donc la variabilité cardiaque, c'est une constante physiologique individuelle. On pourrait dire, tiens, je ne peux pas me comparer, on ne peut pas se comparer, c'est fonction de chaque personne. Elle est multifactorielle, elle est le témoin des capacités d'adaptation. Et l'amplitude est fonction de l'état de santé global. Vous allez faire un bon repas le lendemain matin, vous êtes sûr que votre variabilité cardiaque, elle est très mauvaise. Vous êtes malade, la variabilité cardiaque diminue. C'est vraiment quelque chose qui bouge très vite. C'est un peu comme le sucre dans le sang par rapport au cholestérol. Le cholestérol va avoir du temps pour bouger. Là, c'est vrai que la variabilité cardiaque, elle bouge immédiatement dès qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas dans l'organisme. C'est un très très bon outil pour diagnostiquer les choses. Dès qu'on voit que la variabilité cardiaque diminue, il se passe quelque chose. Et on ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose. L'organisme est en souffrance. Voilà. Alors, qu'est-ce qui réduit la variabilité de rythme cardiaque? C'est là qu'on va devenir à des choses intéressantes, c'est l'âge. Ça, c'est, on n'y peut rien. On perd 3% par année de variabilité cardiaque. C'est toutes les altérations cardiovasculaires, la dépression, les états anxieux, la douleur et le stress. Alors tout ça, ça réduit la variabilité de rythme cardiaque. Donc les maladies chroniques, le diabète, le cancer, etc., la fibromyalgie bien entendu, les pollutions, les intoxications, l'alcool, le tabac, les détériorations physiques et certains médicaments, les bêta-bloquants, antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, tout ça, ça a une fonction de diminution de la variabilité de rythme cardiaque. On le voit très bien aussi dans nos mesures sur la cure, parce que bon, la dernière ligne, vous connaissez, je pense, et c'est vrai qu'il y a un impact très très fort sur la variabilité de rythme cardiaque. Qu'est-ce qui va augmenter la variabilité? Au contraire, c'est une activité physique régulière, ça c'est très très important, il faut bouger. C'est ce qu'on conseille nous aussi à tout le monde, même si on a un petit peu des douleurs, il faut faire ce qu'on... Au minimum, il faut bouger. Dès qu'on s'arrête de bouger, comme disent les Chinois, on est mort. Donc il faut continuer à bouger. Donc, mais je sais que c'est difficile, mais bouger, ça veut pas forcément dire faire un marathon tous les jours. C'est bouger à son rythme. C'est ne pas se satisfaire de rester, d'aller du fauteuil au lit, de lit au fauteuil, quoi. Alors, il y a des périodes où peut-être effectivement ça devient très difficile, mais quand même, il faut continuer à bouger. Le repos, les vacances, les loisirs, la relaxation, méditation, prière, yoga, la musique et l'art en général. La musique, on a fait des mesures. L'écoute de Mozart augmente la variabilité cardiaque. C'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est vrai qu'on a automatiquement semé en grande variabilité cardiaque en écoutant de la musique. Alors, je sais qu'il y a, contrairement à ce qu'on peut croire aussi, ça n'est pas que forcément de la musique classique et douce. On a, par exemple, Ravi Shankar, pour ceux qui connaissent, qui est de la musique un peu indienne, qui, a, lui, entraîne aussi une énorme variabilité cardiaque. Voilà, donc ça, important la musique. Encore, l'humour, le rire, voilà, ça c'est super, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le mode de vie simple, équilibré, amour et relations sexuelles, compassion, gratitude, reconnaissance. En fait, il faut être dans le positif. Il faut essayer de toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ça, c'est un travail quotidien, ça. Alors, voilà, qu'est-ce qui augmente la variabilité cardiaque ? Ben, tout ce qui fait du bien et la cohérence cardiaque. De dire, mais avant, quand même, hein, il a fallu attendre un moment pour parler de la cohérence cardiaque. Mais, hein, il fallait, voilà. Et voilà, oh, c'est gentil ça. Parce que la cohérence cardiaque, c'est tout à fait ça. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On vous branche à un ordinateur et on vous dit, ben voilà, vous faites rien, vous respirez. Rien. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que ça mesure votre rythme cardiaque. Là. Vous imaginez que vous êtes branché à l'ordinateur et donc vous voyez votre rythme cardiaque, il monte, il descend, il est monté jusqu'à 80, il est redescendu à 65, il a un rythme bon qui est... Donc vous imaginez, vous êtes assis, parce que bon, on pourrait faire le test, hein, mais je pense qu'au niveau du timing, on est malheureusement un petit peu serré. Donc, là, ça continue. Et après, ce qui se passe, on va demander à la personne de commencer à utiliser un rythme respiratoire imposé. Rythme respiratoire imposé, qui est de dire, on va commencer à inspirer pendant 5 secondes. J'inspire. Et je vais expirer pendant 5 secondes. Donc, c'est ce qu'on appelle la fréquence 6. Pourquoi fréquence 6 ? Vous entendrez parler de la fréquence 6. Tout simplement parce qu'on va faire 6 respirations complètes sur une minute. Alors 6 respirations complètes, c'est quoi une respiration complète ? C'est une inspire, une expire. Donc 6 respirations pendant une minute, ça veut dire 10 secondes pour une expiration, puisqu'il y a 60 secondes dans une minute. Donc ça veut dire j'inspire 5 secondes et j'expire 5 secondes. Ça, c'est pour se retrouver en ce qu'on appelle en résonance cardiaque. On est vraiment sur une fréquence qui est de 0,1 Hz, un événement tous les 10 secondes. Ça, c'est pour la gestion des fréquences. Donc, là, on est vraiment hyper centré. C'est-à-dire que quand on fait cette technique-là, on se recentre. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, à partir du moment... Et ça, ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont plus forts que d'autres. Ça marche systématiquement pour tout le monde. Voilà ce qui se passe. C'est que, automatiquement, votre rythme cardiaque, qui était un petit peu erratique, il va se mettre en cohérence. Et à partir de ce moment-là, vous ressentez, au niveau de votre organisme, tout se remet d'aplomb. C'est un peu comme si vous sortez en ordinateur, vous nettoyez un petit peu tout, vous faites l'opération de nettoyage et de défragmentation des disques. Voilà. Alors je vais avancer. Voilà. Là, on est en chaos cardiaque, courbe non périodique, très aléatoire, c'est l'état normal. Alors c'est vrai que ça s'appelle le chaos cardiaque, ça fait un peu peur, mais c'est la norme. Si on me prenait en ce moment, si j'étais branché, effectivement, je partirais dans tous les sens. Et après, on est dans cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, la courbe devient périodique, régulière et ample. Et ce qui est important, c'est un état induit. Qu'est-ce que ça veut dire un état induit ? C'est vous qui l'avez décidé. On ne peut pas naturellement être en cohérence cardiaque. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas rester en cohérence cardiaque tout le temps. C'est très fatigant, très éprouvant pour le cœur. La cohérence cardiaque, c'est vraiment utile uniquement pour se recentrer. Voilà. Après, on va rentrer plus dans le détail. Voilà. Vous voyez, on parlait de l'amplitude, de la fameuse amplitude de la variabilité cardiaque. Sur l'exemple qu'on a pris, vous voyez que l'augmentation, elle est à peu près de 4 fois l'amplitude grandit de 4 fois quand on se met en cohérence. Donc, automatiquement, on donne à l'organisme une meilleure capacité d'adaptation. Voilà, la cohérence cardiaque. Donc, la courbe devient régulière, la courbe est ample, la courbe est périodique. Donc l'inspiration accélère le cœur et l'expiration ralentit le cœur. Comment ça? Ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Et la fréquence de 6 par minute est celle qui donne la plus grande amplitude. Voilà, ça c'est des études qui ont été faites. Hein. C'est comme ça qu'on a mis au point les techniques de cohérence cardiaque. C'est cette technique-là qui, de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Il faut faire ça et pas autre chose. Et pourquoi ça, l'inspiration accélère le cœur, l'expiration ralentit le cœur? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le système baroréflexe. Vous avez l'aorte, hein, l'artère aorte que vous connaissez, qui est remplie de petits capteurs à l'intérieur et à l'extérieur, et qui va réguler le flux sanguin, hein, et qui va donner des informations au cœur pour réguler ce flux. Quand vous inspirez, automatiquement, vous ouvrez votre cage thoracique, vous libérez un peu votre aorte, et c'est comme un tuyau, l'aorte, elle va grossir. Donc si elle grossit, le flux sanguin va être un petit peu ralenti, parce que comme toute chose, dans un tuyau, plus il est gros, plus c'est le débit ralentit. Donc on donne l'ordre au cœur d'accélérer, pour mettre plus de débit. L'inverse, quand vous allez souffler, vous allez avoir l'aorte qui va se resserrer, donc plus de débit, hein, et donc le cœur ralentit pour éviter que ça claque. Voilà, c'est ce qu'on appelle le système baroréflexe. Alors les effets de la cohérence cardiaque. Donc une baisse de la fréquence cardiaque moyenne, ça c'est intéressant, hein, parce que moins on utilise son cœur, mieux c'est, hein, plus il dure, jusqu'à une certaine limite bien entendu. Hein. Baisse de la pression artérielle, baisse du cortisol, ah c'est génial ça. Baisse du cortisol, vous avez vu que c'était quand même ce qui nous servait à travailler pendant le stress, mais là on le baisse. Augmentation de la DHEA et augmentation de l'ocytocine. Alors ocytocine, est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone des amoureux ou l'hormone de la femme enceinte, c'est-à-dire c'est vraiment l'hormone du plaisir et du bonheur, hein, qui est sécrétée là directement par le cœur. Effet physiologique, donc régulation de l'insuline, régulation du poids, augmentation des immunoglobulines A et des ondes alpha cérébrales. Donc c'est vrai qu'on est dans un cadre de relaxation. Effet psychologique, donc on ressent, quand on fait un exercice de cohérence cardiaque, on ressent un effet de calme et de sérénité. Les gens qui l'ont testé le reconnaissent. Hein. Donc le niveau de stress ressenti est diminué. On parle de niveau de stress ressenti, c'est comme la météo. Hein. Il y a le ressenti et le réel. On est plus favorable à l'introspection, on est plus ouvert vers les autres et on a une meilleure perception de la réalité. La cohérence cardiaque, pour vous dire, est énormément utilisée aujourd'hui par les sportifs de haut niveau. Les premiers, bon, il y a Federer qui fait beaucoup de cohérence cardiaque au niveau du tennis. On a vu à la télé il y a 4-5 semaines à Stade 2 le petit Manodou, là, le frère, qui utilise la cohérence cardiaque pour travailler ses départs de course. Donc la cohérence cardiaque est entrée énormément dans les pilotes de Formule 1, c'est qu'à Monaco demain, mais les pilotes de Formule 1 utilisent beaucoup la cohérence cardiaque, parce qu'on a une clarté de l'esprit. Bon, alors les effets, ils ne durent pas. Ça, c'est le problème de la cohérence cardiaque. Les effets ne durent pas, ils durent à peu près entre 1 heure et 3 heures. On dit 4 heures, mais bon, je suis un peu sceptique sur les 4 heures. Je dirais entre 1 heure et 3 heures. Et il faut la pratiquer pour que ça marche. Si vous arrêtez, c'est que vous repartez à zéro. Donc c'est une technique qu'on doit utiliser tous les jours, c'est comme se laver les dents. Donc la pratique de la cohérence cardiaque, alors on appelle ça le 365, bon, on travaille nous avec le docteur David Oher, qui est un médecin canadien et qui était l'associé de David Servan-Schreiber, et qui a écrit beaucoup de livres sur la cohérence cardiaque, notamment Maigrir par la cohérence cardiaque, et là il vient de sortir un livre qui s'appelle 365, et nous on travaille sur cette technique-là. Alors, donc le 365, la pratique de base, bon, on rappelle qu'il n'y a pas d'effet à long terme sans la pratique. La mise en place est simple, l'apprentissage est rapide et les effets sont rapides. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre comment ça marche. Donc voilà le petit livre que je vous conseille si ça vous intéresse, c'est le livre de David Oher, 365. Il est très court, il se lit très vite et il a un grand talent rédactionnel qui fait qu'on lit ça comme un roman. Voilà. Alors 365, ça veut dire tout simplement 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Ça sert à rien d'aller au-delà de 5 minutes, parce qu'au-delà de 5 minutes, on commence à rentrer dans le stress, et ça commence à fatiguer, et on a ce qu'on appelle les pensées intrusives qui arrivent. Donc les pensées intrusives, vous savez, vous repartez à ruminer. Voilà. 3 fois par jour, durée moyenne des effets physiologiques, 4 heures. 3 fois par jour pour couvrir la journée, matin, avant midi et milieu d'après-midi. 6 fois par minute, c'est la fréquence dont on a parlé, fréquence de résonance. Hein, donc j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Et c'est celle qui va vous procurer la plus grande amplitude. Pendant 5 minutes, voilà. Donc c'est ce que je viens de vous dire. C'est vraiment la période idéale. Pour apprendre la cohérence cardiaque, il faut une dizaine de jours, en fait. Hein. On peut avoir des guides respiratoires qui existent, on va en parler, ou on peut faire un apprentissage sans guide. C'est-à-dire que vraiment, elle est accessible à tout le monde. Alors, guide respiratoire, nous on en a mis un point en termes d'Alvar qui s'appelle Respirolax, qui fonctionne sur iPad et iPhone. Donc les gens qui n'ont pas ça, malheureusement, eh ben, ils peuvent en avoir un autre quand même. Hein. Donc lui, il est gratuit. Et effectivement, il vous permet de réguler et de respirer à la fréquence 5-5. Voilà. Pour les autres qui n'ont pas d'iPhone ou d'iPad, il y a le RespiroGuide, qui a été mis au point aussi par David Auer, qui fonctionne sous Android. Donc pour les autres smartphones. Après, il y a des logiciels de cohérence cardiaque. Donc il y en a plein. Hein. Il y a EMOF Desktop, EarthTracker, tout ça, tous ces logiciels vous permettent donc de mesurer votre cohérence cardiaque. Alors maintenant, l'apprentissage autonome. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas de guide respiratoire, soit de compter les secondes. C'est un peu stressant, parce que c'est vrai qu'on est là à regarder sa montre. Hein. Soit on compte tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pour les inspirations et expirations. Soit on peut compter ses respirations pendant 5 minutes. Et l'objectif, c'est une méthode qui est pas mal, ça, parce que vous comptez vos respirations, vous lancez un chronomètre, vous regardez 5 minutes, et vous voyez à combien vous en êtes. L'objectif, c'est d'atteindre 30 respirations, 6 fois 5, 30. Hein, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes, ça fait 30 respirations. Et vous allez voir que vous êtes toujours très au-dessus. Mais quand vous prenez cette technique-là, vous allez la faire vôtre. Et quand vous allez arriver aux 30, vous aurez bien le rythme qui sera dans votre tête. Vous l'aurez bien appris. L'apprentissage est très bon comme ça. Et David Auer, lui, il a mis au point un apprentissage qu'on a testé au terme d'Alvar et qui marche très bien aussi. C'est les vagues. L'objectif, vous prenez un papier et vous dessinez des vagues en même temps que vous respirez. En plus, ça détend énormément. Et donc, l'objectif, c'est de faire 30 vagues. Je suis un peu loin. Voilà. Donc, pendant 5 minutes, voilà, j'inspire. Et j'expire, et je marque. Donc il faut avoir un petit cahier, et puis on fait ça. Et puis on compte le nombre de vagues qu'on a fait pendant 5 minutes. Et en fait, c'est vrai que le geste a un effet qui va aider à la cohérence cardiaque. Voilà. Donc la phase de pratique, c'est lorsque que vous avez acquis tout ça, il faut faire ça 3 fois par jour, tous les jours, une séance tous les 3 à 5 heures. Donc généralement, on dit à 7 heures, 11 heures, 15 heures, et 19 heures, la dernière qui peut être ajoutée. Voilà. C'est pas la peine d'aller au-delà. Alors les applications personnelles, bon, bien entendu, c'est la gestion du stress et de la douleur. Ça, c'est important parce que bon, une séance de cohérence cardiaque peut vous permettre d'abaisser en rééquilibrant le système nerveux autonome, vous allez abaisser le seuil de douleur. Le mieux-être et le développement personnel, les améliorations des performances, ça c'est pour les sportifs. Et c'est un complément à toute pratique, c'est un catalyseur par rapport à tout ce que vous faites. Toutes les pratiques que vous faites, par exemple, bon, nous on fait de la cohérence cardiaque avant et après chaque atelier qu'on fait. Parce qu'effectivement, on se met dans une situation d'être beaucoup plus dans un apprentissage beaucoup plus facile. Bon. Application professionnelle, gestion du stress, prévention du burn-out, amélioration des interactions, communication cohérente, rôle pédagogique, etc. La cohérence cardiaque, je vais vite pour terminer, c'est aussi un outil de désensibilisation. Les psys utilisent ça pour traiter les addictions, par exemple, les addictions ou les gros traumatismes. On peut se mettre en cohérence en visualisant le traumatisme, en revivant le traumatisme. Voilà. Désensibilisation. Je pense que là, j'ai une petite chose intéressante. Voilà. Qu'est-ce que fait la cohérence cardiaque? J'espère que ça va marcher. Après, c'est fini. Je vais un peu plus vite parce que je vois que le temps presse. Mais vous voyez, vous voyez les choses. En fait, la cohérence cardiaque, on ne change pas le film. Hein. Le film, il est là, vous ne pouvez pas le toucher, c'est la vie, elle est comme ça. Sauf qu'on peut la voir différemment. Et vous avez vu comme une simple musique vous fait voir différemment les choses. Donc voilà, nous, ce qu'on essaie de vous apprendre, c'est ça. Essayez de voir la deuxième partie et pas la première. Voilà, donc je pense que là, je peux... Bon, il faut le pratiquer régulièrement, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Les désensibilisations, recentrage, on peut se recentrer à n'importe quel moment. On a aussi, David Hoher, il utilise le 161, c'est le rescue pour ceux qui connaissent. C'est quand on est super stressé, on fait la respiration une fois pendant une minute. Et ça... Le rescue ? 161.
Le rescue.
Ouais, oui, le rescue, c'est les fleurs de Bach.
Des fleurs de Bach.
Voilà.
Le rescue des fleurs de Bach. Tu connais pas ?
C'est le même effet. Hein. On fait 6 respirations sur une minute. Une seule fois. Voilà. Et ça fait diminuer la pression. Et voilà. Et si vous avez des questions, je peux rapidement y répondre. Merci.
Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir pour la plupart ce que c'était la cohérence cardiaque et ce que ça pouvait vous apporter. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Daniel, il y a... Vas-y.
Marie. Oui, juste, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une position pour faire cette respiration ?
Il vaut mieux être assis, effectivement. Mais il faut allonger. Bon, c'est vrai qu'on conseille la cohérence cardiaque aussi pour dormir. C'est vrai que pour dormir, on peut faire de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'on peut faire un exercice de cohérence cardiaque avant de s'endormir. Ça aide à l'endormissement. Mais normalement, il vaut mieux faire ça assis. Parce que si vous voulez, en termes de... Quand on est allongé, il y a plus de pression au niveau cardiaque. Ça marche moins bien. Mais donc, il vaut mieux être assis.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une technique assez naturelle. Autre que les médicaments, hein, est-ce que ça vous donne envie d'essayer la cohérence cardiaque, hein? Ça vous donne envie? Oui, bon, bah alors il faut essayer. Voilà. Et je vous conseille d'aller au terme d'Alvar où c'est pratiqué. D'ailleurs, nous avons Christiane qui a fait sa cure l'année dernière au terme d'Alvar, qui est revenue enchantée. Hier soir, j'avais un mail d'une adhérente qui sort de la session qui s'est terminée la semaine dernière, qui est revenue enchantée et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Moi-même, je vais début juin à Alvar. Donc, je vais pratiquer la cohérence cardiaque.
On a une grosse pression.
Alors, venez tous à Alvar.
Oui, sur la cohérence, si vous voulez... Oui.